Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voix des chamanes. Je suis Mélodie Saxe, formatrice en pratiques chamaniques, énergétiques et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Je t'ai parlé du chamanisme dans le précédent épisode. J'ai évoqué les pratiques chamaniques, dont je te parlerai plus en détail dans un autre épisode. Mais qu'est-ce qu'un chaman ? Qui sont les chamans ? Es-tu chaman ? Le mot chamanisme est relativement récent. Il date du XVIIe siècle. C'est une construction européenne pour parler de pratiques vues en Sibérie. Cela vient du mot chaman, utilisé dans les langues tungouses en Asie du Nord et de l'Est, pour désigner les personnes utilisant ces pratiques. Le mot chaman pourrait venir originellement d'Inde, en ayant été transmis dans plusieurs langues où les significations être éclairé ou moine étaient prédominantes. Le terme a ensuite été repris en russe pour signifier prêtre, guérisseur, magicien. On retrouve partout sur la planète des appellations diverses représentant les personnes qui transmettent le savoir, la sagesse, qui guérissent et qui communiquent avec les esprits. Ce sont les Angakuk des Inuits, les Curanderos du Pérou, les Machis du Chili, les Mudang de Corée, les hommes et femmes médecine d'Amérique du Nord. Le terme chaman ne devrait donc être utilisé que pour les personnes qui connectent avec l'invisible en Sibérie orientale et Chine du Nord-Est. Mais aujourd'hui, le terme de chaman a été popularisé et généralisé en Occident pour représenter toutes ces personnes qui sont les figures spirituelles de leur communauté. Et le mot chaman, dans son utilisation contemporaine, est un terme intéressant qui permet aujourd'hui de communiquer à une échelle mondiale un concept qui était auparavant local et de se comprendre. Aujourd'hui, le terme chaman désigne généralement les personnes qui transmettent la sagesse, qui guérissent et qui communiquent avec les esprits, qui sont des ponts entre les mondes, entre les dimensions. Il est important de se souvenir que c'est un terme générique et inadéquat, qu'il est toujours nécessaire de se renseigner sur le travail, les spécialités et les termes utilisés dans chaque culture, non seulement par respect, mais aussi par souci de précision. Même si la base est la même, les spécialités peuvent être très différentes. Certaines personnes se dédient au travail de guérison du corps ou de l'âme avec des plantes ou diverses autres modalités. Certaines personnes se dédient à la communication avec certains esprits. Il y a autant de modalités, de spécialités et de façons de faire que de personnes. Petit aparté. Souvent, dès qu'un homme est un peu connecté ou transmet des éléments d'une culture différente, on l'appelle chaman, on le met sur un piédestal et on le vénère. Et même si une femme est très connectée et qu'elle a beaucoup à transmettre, on la voit souvent comme moins importante ou comme l'assistante. Et parfois, elle se conforme à ce rôle. Mais sache qu'à l'origine, les chamanes étaient des femmes. Ce sont les femmes qui ont développé cette connexion, ces connaissances et ces pratiques. Elles ont ensuite enseigné aux hommes, ce qui a fait qu'il y avait des couples qui travaillaient ensemble. Les femmes n'ont jamais été les assistantes. Elles étaient les enseignantes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui sont très bons dans ce qu'ils font. Il y en a plein qui font un travail formidable. Mais ils ne sont pas les seuls et ils ne sont pas meilleurs que les femmes. Chacun a sa magie à apporter et des énergies complémentaires. Et quand les femmes reprennent leur pouvoir, cessent d'être ignorées et effacées, cela permet aux hommes d'être vraiment dans leur pouvoir eux aussi. Car si l'un des deux n'est pas dans sa puissance, les deux subissent les conséquences et les déséquilibres. La prochaine fois que tu vois un couple ou un groupe de personnes connectées, ne mets peut-être pas toute ton attention sur les hommes en costume traditionnel ou sur ceux qui parlent le plus fort. Remarque aussi la petite femme discrète en jeans et en t-shirt qui a peut-être plus à transmettre que ce dont tu peux avoir l'impression. Et avant d'aller chercher un grand maître à l'autre bout du monde, va peut-être boire un thé avec la grand-mère rebouteuse de ton village, tu pourrais avoir des surprises. Il est aussi bon de faire la différence entre un chaman, un médium, un guérisseur ou encore un prêtre. On utilise souvent le mot chaman pour n'importe quelle personne qui travaille dans le domaine spirituel. Mais il y a de grosses différences, et utiliser le mot chaman sans précision peut mener à d'énormes confusions. Le médium, le guérisseur et le prêtre ne se déplacent pas forcément sur différents plans de conscience. Un médium communique avec les esprits et les défunts, mais il n'utilise pas forcément de pratiques de guérison ni de dévotion. Un guérisseur facilite la guérison physique ou émotionnelle, mais il ne communique pas et n'honore pas forcément les esprits. Un prêtre honore les divinités et les esprits, pratique la dévotion et la prière, mais ne communique pas forcément avec les esprits et ne facilite pas forcément la guérison. Le chaman va regrouper tous ces rôles. Il a souvent besoin d'être clairvoyant, clairaudient, clairsentient, claircognitient, médium, guérisseur, et d'entretenir sa connexion avec ses guides, esprits et alliés. La différence des pratiques chamaniques avec la médiumnité, le magnétisme, le reiki ou d'autres modalités, c'est qu'elles nécessitent de déplacer sa conscience sur différents plans, et donc de moduler son énergie pour accéder et se déplacer sur ces plans en conscience pour faire son travail. Cela demande d'être en contact et en communication claire et permanente avec des guides, des esprits et des alliés pour être en sécurité et savoir quoi faire. Dans de nombreuses situations, le contact avec les défunts et les objectifs de réharmonisation des énergies font partie des expériences. Il n'y a pas deux voyages chamaniques qui sont les mêmes, et le travail n'est pas protocolaire. Cela demande d'être à l'écoute pour s'adapter à la situation spécifique. Le médium aura souvent plus de contacts et des messages plus précis et détaillés des défunts. Le guérisseur aura souvent des spécialités au niveau des mots qu'il soigne le mieux. Le prêtre dédiera souvent ses pratiques à une divinité spécifique. Mais ils resteront généralement sur un seul plan de conscience. Et s'ils voyagent sur d'autres plans, ce sera relativement léger et proche, ou occasionnel. Même s'il peut leur arriver de pratiquer d'autres choses, et qu'ils en sont tout à fait capables, la majorité de leur travail sera sur leur spécialité, parce que c'est leur mission de vie. La spécialité du chaman est de voyager entre les mondes. Il touche à tout car dans ses pratiques, il a souvent besoin de prendre en compte la globalité de l'être et des dimensions, et de faire beaucoup de choses en même temps. La majorité des situations que chacun va rencontrer sera différente, en fonction de ce qui correspond le plus à ses énergies, ses autres vies, ce qui est fluide et aligné. Cela ne veut pas dire que si l'on n'est pas chaman, on est moins bon que les autres, qu'on ne peut pas utiliser les pratiques chamaniques ou qu'on ne fait pas partie des élus. Nous sommes tous élus, mais chacun a une mission différente qui lui correspond et dans laquelle il s'épanouit. Il n'y a pas un rôle qui soit meilleur qu'un autre, ils sont simplement différents. Le chaman n'est pas supérieur, il n'est pas un grand maître à vénérer et à mettre sur un piédestal. Il est un simple être humain comme les autres, dont la mission et de connecter avec les autres plans de conscience. Il voyage dans les différentes sphères et son rôle est de connecter à toutes les dimensions de l'être pour rétablir l'équilibre, réintégrer ce qui a été perdu, remettre l'énergie à sa place, unifier, ramener ensemble. D'une part, il va communiquer avec les esprits et les ancêtres pour connaître l'origine du déséquilibre et ce qu'il faut faire pour restaurer l'équilibre. Il va recevoir des informations. D'autre part, il pratique des soins énergétiques et spirituels profonds sur différentes dimensions de l'être. Il bouge et transmute l'énergie sur différents plans. C'est donc un travail multidimensionnel. On entend aussi souvent que pour être chaman, il faut être reconnu et initié par un autre chaman. Cette notion, même si j'y trouve du sens sur une certaine interprétation, me crispe souvent un peu, surtout lorsque je pense à ce que l'on en fait aujourd'hui et comment on l'utilise à tort. C'est souvent un prétexte utilisé pour de la prise de pouvoir, par des personnes qui se sont autoproclamées chamanes ou se sont soi-disant fait reconnaître par quelqu'un à l'autre bout du monde, dont ils ne parlent pas la langue la plupart du temps. Qui va aller vérifier et comment ? Qui peut avoir la preuve d'une reconnaissance chamanique légitime de personne en personne ? Et d'où sort le premier ? Je suis profondément mal à l'aise avec cette notion. Je trouve que ça ouvre la porte à tout un tas de manipulations, de jeux d'ego et de pouvoir qui n'ont rien à voir avec l'essence du chamanisme. J'ai écrit un article sur ce sujet sur mon blog, tu peux aller sur melodysax.com/blog et cherche l'article « Chaman ou praticien chamanique ». Tu retrouveras le lien dans les notes de cet épisode si tu veux aller plus loin. Pour moi, Un chaman, c'est celui qui a été reconnu par les esprits, effectivement. Mais dans le sens où son âme a choisi cette mission de vie, et son plan de vie a fait qu'à un moment, il a connecté avec les esprits, et que cela a pris une grande place dans sa vie. On ne reconnaît pas quelqu'un qui a été choisi par les esprits en voyant qu'il a été validé par un autre être humain, mais en voyant qu'il a des résultats dans son travail avec les esprits. On reconnaît un chaman au travail de sa vie. Je suis aussi en profond désaccord avec la notion de devoir être initié par un autre être humain, exactement pour les mêmes raisons. Qui a la légitimité d'initier qui que ce soit et de lui donner quoi que ce soit comme permission? La seule initiation valide est celle des esprits. Et crois-moi qu'elle peut être intense. Ce sont les esprits qui enseignent, qui guident et qui disent quand on est prêt. Pas un autre être humain. Par contre, il est toujours bon et conseillé d'avoir une ou plusieurs personnes, idéalement plusieurs personnes, qui ont de l'expérience et à qui on peut poser des questions, par qui on peut se faire guider sur le plan physique en complément. Mais pas avec une sorte de hiérarchie et de la prise de pouvoir. Chaque chaman ne peut que transmettre son expérience, rien de plus. Elle a beaucoup de valeur, mais la plus grande valeur, c'est de guider l'autre à recevoir sa propre guidance, l'accompagner pour qu'il se fasse confiance, lui offrir un cadre sécurisé pour déployer sa propre magie. J'aime beaucoup la phrase « On ne reconnaît pas un maître au nombre de ses élèves, mais au nombre de maîtres qu'il a élevés. » Le but n'est pas de créer des clones sous son influence, mais d'accompagner chacun à découvrir et offrir au monde son cadeau unique. La transmission d'une tradition figée et soi-disant pure ne fait pas de sens non plus. Le chamanisme est vivant, vibrant, évolutif et personnel. Chaque personne pratique différemment. Les protocoles viennent de la modernisation et de l'obsession de figer les choses sur le papier pour ne pas faire d'erreur. Et encore une fois, prendre du pouvoir, labelliser les choses et faire payer le droit d'utiliser un protocole. En chamanisme, il n'y a pas de protocole. Il y a des éléments importants, mais ensuite, il est tout aussi important que chacun y mette sa couleur et surtout écoute ses guides pour s'adapter à chaque situation spécifique. Si quelqu'un te dit qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de faire les choses, je te conseille de partir en courant. Il y a toujours des millions de façons de faire les choses. Cependant, il est vrai qu'entre personnes dont les capacités sont développées, on se sent. Il y a comme une partie de notre énergie qui est publique, en quelque sorte. Pense à ton profil sur les réseaux sociaux ou ta photo de classe. Il y a une partie basique de ton énergie que tout le monde peut voir, de la même façon qu'ils peuvent voir ta couleur de cheveux et les expressions de ton visage. Tu rayonnes cette énergie qui est perceptible. Cependant, une personne qui ne maîtrise pas ses capacités peut très vite confondre et mal interpréter ce qu'elle perçoit dans tes énergies publiques et se perdre rapidement dans ses projections et illusions personnelles. Donc, méfie-toi de ce que les gens te disent qu'ils perçoivent chez toi, surtout si c'est en te croisant 2 minutes et sans te demander l'autorisation. Mais quelqu'un d'aguerri percevra souvent si la personne en face d'elle a une énergie forte et une connexion développée. Mais ça ne veut pas dire que si elle ne la perçoit pas, il n'y a pas un potentiel. Elle peut aussi percevoir le type d'énergie dominante. Les personnes connectées au chamanisme ont une énergie légèrement différente de celles qui sont très connectées aux étoiles ou encore à la médiumnité. Il est donc possible que quelqu'un perçoive chez toi ou chez une autre personne une ouverture, une sensibilité à un certain type d'énergie. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle ne la perçoit pas qu'elle n'est pas là. C'est de là que vient l'idée de reconnaissance par ses pairs. Car effectivement, les anciens observaient et reconnaissaient les enfants qui allaient probablement avoir une sensibilité particulière et qui avaient des chances d'avoir une mission de vie en lien avec les esprits. Mais ensuite, ils passaient souvent des années à observer ces enfants et à les guider pour voir si effectivement c'était le cas et quel chemin ils allaient suivre. Ce n'est pas une obligation ni une certitude. Par contre, lorsque l'on a choisi une certaine mission de vie et que la communication avec les esprits en fait partie, ce sera souvent important d'accueillir cette connexion. Parce qu'aller à l'encontre revient à lutter contre soi-même, et c'est rarement agréable. Mais ensuite, chacun peut en faire ce qu'il veut. Cette connexion peut trouver sa place de plein de façons différentes. Le but est seulement d'être en paix et en harmonie avec elle, et de suivre notre appel intérieur, ce qui nous donne de la joie, et là où on se sent aligné. Là où c'est compliqué, c'est souvent lorsqu'il y a des peurs, des conditionnements, et que le mental a décidé d'aller dans un sens, souvent pour se protéger ou se conformer, alors que l'âme et le cœur veulent aller ailleurs. C'est un conflit interne qu'il sera important de pacifier. Donc oui, quelqu'un peut déceler dans tes énergies ou celles de n'importe qui une prédisposition au chamanisme ou autre chose. Mais cela ne fait de personne un chaman. C'est ensuite tout un chemin entre l'accueil de cette connexion, le fait de suivre son alignement et voir ce que l'on souhaite en faire, travailler avec les esprits et développer son expérience. Et c'est souvent au bout d'un certain nombre d'années que l'on sait quelle place cela prend, et que l'on a l'expérience et l'expertise pour exercer et pour transmettre, si c'est ce qui se présente. À ce moment-là, il arrive que pour être compris, on appelle chaman la personne que l'on recommande d'aller voir, car elle a l'expérience et les résultats. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est appelée chaman qu'elle l'est vraiment, ni si elle n'est pas appelée chaman qu'elle ne l'est pas. La plupart des chamans diront simplement « Je suis juste moi et je fais juste ce que je fais ». Parce qu'on ne devient pas chaman, on l'est dès la naissance. L'âme a choisi ce chemin, qui parfois peut se révéler tardivement, mais c'était prévu dès le début. Cela prend souvent ensuite des années d'apprentissage et d'expérience pour avoir une guidance fiable et des pratiques efficaces et sécurisées. Et tout le monde n'a pas la mission de vie de se consacrer à ce domaine pour aller vraiment en profondeur. Et personne n'a l'exclusivité d'une pratique. Tout le monde peut tout faire, mais ne le fera pas forcément à la même profondeur et dans le même volume. Tout le monde peut jouer au foot, faire de la pâtisserie ou bricoler. Mais tout le monde n'aura pas l'appel de le faire tous les jours, à niveau professionnel, et d'y consacrer la majeure partie de sa vie. Tout le monde n'est pas chaman, à proprement parler. Tout le monde n'a pas la mission de vie de se consacrer à la pratique ou à l'enseignement du chamanisme. Mais n'importe qui peut pratiquer le chamanisme, pour son quotidien et pour ses proches. Dans les anciennes traditions, la majorité de la communauté avait des connaissances de base sur le fonctionnement des énergies et de la communication avec les esprits. Tout le monde n'allait pas voir le chaman, le sage ou le guérisseur du village tous les jours. Pratiquer le chamanisme, c'est comme respirer. C'est naturel, cela fait partie de nous, et ce n'est pas réservé à une élite, bien au contraire. C'est un art de vivre. C'est non seulement possible pour n'importe qui d'utiliser les pratiques chamaniques, mais c'est aussi souhaitable. On ne va pas à l'hôpital pour mettre un pansement. On n'est pas obligé d'aller dans une église ou un temple et voir un prêtre pour prier. Le chamanisme, c'est pareil. Plus de personnes seront autonomes, plus les chamans aguerris dont c'est la mission de vie et qui y consacrent la majeure partie de leur temps pourront se concentrer sur les situations les plus complexes et sur l'accompagnement et l'enseignement. Cela permet aussi que plus de personnes accèdent à leur propre magie, apprennent à connaître leurs énergies et alliés et viennent apporter leur cadeau unique. Rayonnent de ce qu'elles portent en elles et que personne d'autre ne peut transmettre de la même façon. Cela aide à notre évolution en tant que société, à ce qu'il y ait plus d'harmonie, de conscience, et un lien restauré avec la nature, l'univers et avec nous-mêmes. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre qui sont les chamans et t'aura donné envie d'en savoir plus sur les pratiques chamaniques. À très vite dans le prochain épisode. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire, des étoiles et partage cet épisode avec tes amis et sur les réseaux sociaux. Si tu souhaites aller plus loin, ce serait une joie de t'accueillir dans mon programme Illumination où je te transmets mes plus de 30 ans d'expérience. Plus de 9 formations en une où tu apprendras les pratiques les plus transformatrices en spiritualité, chamanisme, énergétique, médiumnité, libération des mémoires. Je t'apprendrai aussi à les adapter à ta personnalité et tes énergies pour déployer ta propre magie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite!